arrivé à l'heure, Stéphane, quand même.
Mon prochain invité, effectivement, c'est la personne qui me motive le plus. Oh. Il sait très, très bien qu'il faut pousser fort et parler fort pour qu'il en reste un petit pourcentage. Mais je l'adore. C'est le docteur Jean-Pierre Després qui est directeur scientifique du VITAM. Le VITAM, c'est le centre de recherche sur la santé durable. Il travaille donc au CIUS de la Capitale-Nationale. Docteur Després, bon matin.
Bonjour Stéphane, on fait une petite correction tout de suite, hein. Je suis pas médecin, je suis chercheur puis j'essaie de trouver avec mes collègues. C'est la première chose à dire. Hey, ça fait plaisir de te parler Stéphane.
Ben merci Jean-Pierre Després. Là, le COVID s'attaque aux personnes qui ont des problèmes de santé, mais si on est en forme, j'imagine qu'on passe à travers plus facilement.
Bon, alors... Tu sais, Stéphane, on vit un moment historique. Là. Tu sais, on est dans l'histoire de l'humanité, il est arrivé, on a vécu des crises, on a vécu des guerres. Là, on est en guerre contre un ennemi invisible. Puis, on a appris beaucoup de choses. Justement, la science nous a permis d'apprendre beaucoup de choses depuis le début. Puis, il sort encore plein de publications scientifiques pertinentes à cet effet, dont une grosse étude qui émane de... du NHS anglais en Angleterre, une immense cohorte qui montre encore une fois la valeur. Tu sais, je t'ai déjà parlé de ça, que je rêvais, moi, qu'on ait une espèce de qu'on soit une société connectée, empathique, qu'on ne vende pas là, nos données à l'industrie, là, mais ça, c'est une richesse naturelle, la connaissance de ce qu'on est comme peuple. C'est comme l'hydroélectricité, ça. Ça devrait appartenir aux Québécois, ça devrait être géré par les Québécois, puis pas vendu à des intérêts privés, comme... J'ai déjà dit ça, c'est les Google, Facebook, la planète, ils en savent déjà assez sur nous autres. Et ce qu'on a appris dans cette étude anglaise-là, c'est qu'effectivement, quand on regarde les gens qui décédaient, puis là on parle d'échantillons très, très, très conséquents, là, des milliers de décès, t'sais, au début on a dit, bon, c'est les personnes âgées que ça touche, mais ce qu'on réalise finalement, c'est que les personnes, à la lumière de ces résultats-là, c'est que les personnes âgées qui sont en forme, qui n'ont pas de facteurs de risque, qui ont des cœurs sains, des reins sains, tu sais, qui n'ont pas donc de qui sont pas fragiles, ben oui, il peut arriver que certains d'entre eux décèdent, mais là, ça commence le signal, il commence à être très, très clair. C'est ceux qui sont fragiles parce que, justement, puis ça, tu sais, tu me connais, on fera pas de leçon de morale ce matin. Je l'ai toujours dit, à un moment donné, tu t'oublies, tu es pris dans le tourbillon de la vie. Tu commences à prendre la petite bédaine, puis là, tu commences à prendre des médicaments parce que tu fais d'hypertension, tu commences à faire du diabète, médicaments, le cholestérol. Là, le cœur commence à faiblir, les reins commencent à moins bien fonctionner. Ben là, ce que la science nous dit, c'est que ça, cette population-là, qui est souvent plus âgée, parce que c'est des décennies de sédentarité qui ont fait qu'à un moment donné, ben ton corps, il est poqué un peu de partout. Ben oui, ces gens-là sont très, très vulnérables à la COVID. Donc, puis une fois qu'on a dit ça, on dit, bon, ben OK, on va pas transformer la société du jour au lendemain. Je l'ai déjà dit, on a un système qui est tourné vers la gestion de la maladie. Puis en passant, je salue là, tous les professionnels de santé du CIUS de la Capitale-Nationale qui sont sur le terrain en ce moment. C'est des pompiers qui font un travail là, difficile. Là. C'est les tours à New York qui sont tombées, puis là, ben c'est très, très dur pour... la morale des troupes, ça travaille fort, puis on gère constamment l'incertitude, puis on le voit de jour en jour, là, la situation évolue, c'est ce que je les salue. Mais c'est une crise comme celle-là, c'est une opportunité pour dire, finalement, on va-tu le faire, cet environnement-là, empathique et apprenant, où tous ensemble, on s'approprie la connaissance de ce qu'on est. Puis c'est ça, VITAM. Ça, je suis très, très fier de ça. Tu sais, j'ai été pendant 20 ans à l'Institut cardiologie pour diriger la recherche en cardiologie. Je salue mes collègues là-bas en passant. Puis j'ai sauté à clôture et j'ai accepté de prendre la direction de ce centre-là, justement, parce que là, il est temps de prendre tout ce savoir là, qu'on a, puis avec les citoyens, avec la population, de se mettre au service de la population. C'est-à-dire, tous ensemble, là, le Titanic, on va le déplacer. C'est très, très ambitieux, mais ça peut se faire. Puis je salue en passant tous ceux qui y ont cru, parce que je suis très fier de prendre la direction de ce centre-là. VITAM, justement, c'est un clin d'œil, tu auras compris que c'est un clin d'œil à, justement, la pérennité finalement de la santé. Ça vient d'habitam aeternam en latin, puis ça se dit très bien en anglais aussi, parce que nos chercheurs dans ces différents secteurs-là sont de calibre international. Puis là, ben c'est ça. VITAM, Centre de recherche en santé durable, j'ai des téléphones, j'ai des courriels. Il y a un paquet de chercheurs qui disent, OK, on se retrouvait pas dans le système hospitalier classique pour faire notre recherche, mais on travaille, on est en droit, en art et design, aménagement, architecture. Regardez comment on doit reconfigurer les villes, entre autres, là, pour les rendre compatibles justement avec l'intergénérationnel. On s'en rend compte en ce moment, là, pour reprendre toute la question de comment les CHSLD sont configurés. Alors, des gens en sciences sociales qui veulent se joindre à ce centre de recherche-là parce qu'ils s'y reconnaissent. Puis là, je pourrais te donner...
Donc, c'est pas juste l'activité physique. Là, c'est vraiment là, tout ce qui peut entourer le domaine de la santé. Comment on met ça dans un point central?
Absolument, absolument, Stéphane. Tu as parfaitement raison. Évidemment, l'activité physique, ça, c'est sûr... Tu sais, ça, c'est la base. Je rencontre des chums de temps en temps, là, puis que ça fait longtemps que j'ai pas vu, puis ils sont comme toi, c'est mes projets de vie, là, tu sais.
Oui, c'est ça.
Puis là, ils me regardent, puis ils baissent les yeux, puis ils disent, ah, Jean-Pierre, j'ai rechuté, j'ai pris du poids. J'ai dit, garde ton poids, là, je m'en fiche. Et je le dis avec beaucoup de science à l'appui, là, je dis pas ça pour faire du sensationnalisme un matin. Là, j'ai dit, mais tu bouges-tu? Ah, pas le temps, occupé. Non. Regarde, c'est pas ton poids qui me préoccupe. Faut que tu bouges. Faut que tu bouges à tous les jours. Si tu bouges, tu vas entretenir ton cœur, tu vas entretenir ton muscle squelettique. Puis là, écoute, on a une littérature incroyable. Il n'y a pas de médicament qui va arriver à la cheville de l'activité physique en termes de bénéfices. Puis même si tu...
Oui, mais on se décourage quand on perd pas. Oui, mais on se décourage. Moi, je veux dire, j'ai recommencé à jouer au hockey.
Il y a plein de gens qui t'ont lavé le cerveau, Stéphane, en disant que, regarde, c'est le poids. Faut que tu aies l'air d'un mannequin anorexique. C'est pas ça l'idée. Évidemment, si on avait une jase autour d'un petit drink, je te dirais, bon, OK, Stéphane, moi, je vais regarder ton agenda, ton horaire, puis à part de ça, c'est quoi les choses que tu aimes faire? Écoute, si je t'impose une activité physique que tu aimes pas, tu le feras pas. La première chose à faire, c'est de dire, OK, en fonction de ce que tu aimes, puis ton agenda, y a-tu des rendez-vous que tu peux placer avec toi-même où tu dis, regarde, ça, c'est des moments qui m'appartiennent, puis je vais entretenir mon corps. Mais entretenir mon corps, ça ne veut pas dire de jeûner puis de manger du foin, mais il faut que tu fasses bouger ce corps-là. Si tu ne fais pas bouger ce corps-là tous les jours, ben, ton corps, parce que tu l'allumes quand tu bouges. Puis là, je n'irai pas dans la biologie des adaptations, mais c'est absolument extraordinaire. C'est phénoménal de voir comment le corps, même à un âge très avancé, aide. Des études, là, chez des gens de 80 ans et plus, on est encore capable d'hypertrophier les muscles. On leur fait faire des petits exercices, là, puis maintenant, avec les techniques d'imagerie, on peut les voir, les muscles. Puis tu vois le muscle hypertrophié. Évidemment, les muscles sont très atrophiés chez des personnes de 80-85 ans, mais c'est fantastique de voir qu'on peut encore hypertrophier les muscles. Tu peux faire de la masse musculaire passer 80. C'est quand même incroyable.
C'est impressionnant. C'est impressionnant. Sans aucune pilule ou ajout, là, juste à bouger, on est capable de donner de la masse, même à quelqu'un très avancé en âge.
Oui, puis là, bien évidemment, c'est quelqu'un qui va te dire, ah ben là, tu n'as pas eu le temps de faire de l'exercice. Oui, mais c'est pas compliqué, là. Mets-toi des chaussures confortables, puis il va marcher. Puis on est chanceux. On n'est pas dans certaines villes chinoises où le ciel est jaune, brun. On a une ville extraordinaire, on a de l'air, on a des ciels bleus. Marcher, c'est pas plus compliqué que ça. Marcher une bonne heure tous les jours. Ah, j'ai pas le temps. Ben oui, mais la vie va te rattraper si tu le prends pas le temps.
Est-ce que vous avez remarqué que là, depuis le début du confinement à la mi-mars, que les gens bougent moins? Tu sais, il y a tellement de choses. Il y a des gens qui avaient pris certaines habitudes pour bouger, comme moi, par exemple, qui joue au hockey. Quand les arénas ferment, ça arrête. Les gens qui allaient au gym, quand le gym ferme, c'est plus difficile de continuer à courir dans la rue puis de le faire à la maison, même si c'est possible. Donc, est-ce que vous pensez qu'il y a du monde qui va avoir perdu des bonnes habitudes de santé? Fait que finalement, que d'être rester à la maison, ben on va peut-être avoir des conséquences négatives sur plusieurs personnes également.
Oui, bien, la dernière fois qu'on s'est jasé, Stéphane, je t'avais parlé d'une étude qu'on avait lancée, une étude qui s'appelle Ma vie et la pandémie. Et je tiens à te remercier parce que suite à l'intervention qu'on avait faite, on a maintenant presque 3000 participants qui ont répondu à notre questionnaire en ligne. Donc, faites mavitan.ca, vous allez arriver sur le questionnaire. Donc, on a une mobilisation incroyable. Les gens ont répondu. Puis là, on les suit dans le temps. C'est pas juste de dire qu'on prend une photographie de ce qui se passe, là. Alors, les participants sont invités aussi. Il va y avoir des questionnaires additionnels. Puis là, justement, avec l'évolution de la situation, on s'entend bien que ça va avoir des conséquences. Puis effectivement, on a trouvé que le tiers des répondants, leur santé physique était affectée. 50% des répondants disant que au niveau santé mentale, c'est dépression, anxiété, stress, ça allait moins bien. Particulièrement nos jeunes qui ont pris ça dur. Puis tu le sais, j'ai deux jeunes garçons de 11 ans puis 12 ans qui ont trouvé ça extrêmement difficile parce que c'est des âges où ils ont besoin de bouger puis ils vivent quelque chose que moi j'ai pas vécu quand j'étais un kid là.
Mais sur 3000 personnes, vous en avez 50% qui ont pas fait une dépression mais qui trouvent ça difficile psychologiquement. Oui. Hey, c'est du stock 50%?
C'est du stock puis en plus, c'est que ils sont pas tous ce qu'on a trouvé aussi c'est qu'il y a des inégalités là-dedans, faut pas s'en surprendre. C'est sûr que, tu sais, quand on voit nos stars à la TV qui se disent confinés puis qui ont des châteaux, tu sais, puis avec le gymnase qui a coûté quasiment 1 million à bâtir, la pandémie est plus facile à vivre que c'est un suivi d'un petit 3,5, un petit 4,5. On s'entend. Alors donc, il y a des grandes inégalités là-dedans. Puis ce qu'on a trouvé aussi, puis tu sais, encore une fois, moi, je suis en contact avec différents groupes dans le monde, c'est que il y a des solutions, il y a des enjeux sociaux que la crise a mis en évidence. Puis là, on va revenir encore une fois sur la population plus fragile, nos aînés. Il y a des provinces canadiennes, dont l'Alberta, la ville d'Edmonton. Ça peut nous surprendre parce qu'on dit ben l'Ouest c'est assez conservateur. Mais moi, j'ai un collègue là-bas qui a croisé des données cliniques, alors le dossier médical, avec une grande enquête sociale qu'ils ont fait. Puis, ce qu'ils ont trouvé, des gros utilisateurs du système de gestion de la maladie, c'est des personnes âgées, fragiles, dont la salle de bain n'était pas propre, le frigidaire était vide, puis qui était déconnecté socialement. Puis juste à s'assurer que de développer des solutions communautaires où on les trouve, ces personnes âgées-là, puis on s'assure donc de répondre encore une fois à des enjeux qui sont des solutions là sociales, pas médicales, qui ont eu un effet absolument spectaculaire. Alors quand je te parle, il est temps maintenant qu'on vit une crise, oui, mais là il faut pas juste jouer aux pompiers, il faut dire ok, la société de demain, il faut qu'on s'organise encore une fois pour s'étudier, se comprendre. Puis là, c'est pas juste une solution technologique, dire on va être connecté avec des bébelles, des gugus. C'est dire non, pouvons-nous mieux se connaître, puis être en temps réel, connaître qui a des besoins dans notre société, particulièrement ces populations vulnérables. Tu sais, quand on regarde ce qui s'est passé au pays pour développer le Canada, on parlait du Canada là 10 secondes, ben il y a eu le chemin de fer. Il y a eu l'autoroute transcanadienne. Ben moi, ce que ça, là, c'est de l'infrastructure sociétale. Puis un magnifique projet, ça a été Hydro-Québec. Ben là, c'est pareil. Ça, c'est une infrastructure sociétale qu'on a besoin de se donner. On dépense des milliards pour rénover des échangeurs routiers, puis on s'entend que c'est important. Parce que sinon, évidemment, il va y avoir des catastrophes, là. Il y aura des accidents, des échangeurs vont tomber. Ça coûte des milliards, ça, Stéphane. Moi, je pense que dans la hiérarchie des dépenses qu'une nation doit se donner pour répondre à des enjeux aussi importants que celui-là, là, mettre quelques centaines de millions de dollars, ça peut te paraître démesuré comme coût. Hey, c'est des peanuts, là. Parce que là, c'est un investissement qu'on fait pour les générations futures. On va se donner les moyens de s'étudier, de se comprendre, puis d'être très, très agile, qu'on soit capable de développer des solutions, les trouver, les gens dans le besoin, parce qu'il va en avoir d'autres crises, là.
Exact.
Ils répondent à leurs besoins.
Le temps file, Jean-Pierre. En terminant, je voyais dans les notes, vous m'aviez indiqué, c'est le 50e anniversaire du PEPS cette année?
Oui.
Bon, ouais, ça, alors, moi, je suis un bébé du PEPS. Le PEPS a été lancé en 1970. Ça a été ouvert en 1970. Des gens disaient, ah, ça va être un éléphant blanc, cette affaire-là. Moi, je suis arrivé au PEPS en 1977. Puis, alors que ben des gens pensaient, ah, ben là, ça joue au ballon, tu sais, au PEPS, là. Mais il y avait un laboratoire là-bas qui s'appelait le Laboratoire des sciences d'activité physique. Moi, j'ai fait un bac. Maintenant, ça s'appelle le bac en kinésiologie. Puis il y avait un chercheur là qui s'appelle Claude Bouchard qui dit, moi, je veux étudier la santé et la condition physique des familles québécoises. Je me cherche des étudiants là pour m'aider à lancer ce projet-là. Moi, j'étais un petit con de 18 ans, je lève ma main, ça a changé ma vie. Puis là, avec lui, je suis rentré dans des familles où on avait un camion rame avec une boîte qui avait servi à évaluer les athlètes aux Olympiques en 76. Puis on allait le matin dans les familles, les papas, les mamans, les enfants en pyjama parce qu'ils étaient à jeun. On allait faire des prélèvements sanguins, des questionnaires. On mesurait donc leur profil de santé. Puis là, ça remonte à 1977-78, là. C'est là que j'ai eu la piqûre. C'est là que j'ai réalisé. Déjà à l'époque, les papas, les mamans posaient plein de questions sur leur santé. Puis bien évidemment, moi, je commençais, j'avais pas les réponses. Mais là, je leur disais, écoutez, j'ai pas la réponse, mais ils m'ont fouillé, m'ont parlé à mes professeurs, puis je vous reviens avec des réponses. Et, écoute, c'est là que j'ai eu la piqûre. Et donc, c'est devenu, pour moi, le PEPS, c'est le temple de la santé. Tu sais, on a des hôpitaux qui gèrent la maladie. Ça, c'est un peu l'hôpital de la santé.
C'est ça. Donc, on gère ça différemment. Hey, Jean-Pierre Després, merci beaucoup de ces quelques minutes. C'est vraiment important. Puis d'ailleurs, le chemin a été fait. La preuve, c'est que on réussit. Tu sais, je regarde les dessins encore le jeudi, puis on a tellement augmenté l'espérance de vie, autant chez l'homme que chez la femme. Et ça va continuer. Plus on va comprendre comment le corps humain réagit à l'activité physique, c'est dur de se rentrer ça dans la tête. Puis on pense que faudrait commencer puis tout faire à 100%, alors que si on prend ça petite bouchée par petite bouchée, puis on prend ce qui nous... L'important, c'est bouger, là, puis vous allez voir que le reste va suivre et vous allez demeurer en santé plus longtemps.
C'est une excellente conclusion, Stéphane, puis encore une fois, suivez-nous, VITAM, Centre de recherche en santé durable, vous allez voir, tous ensemble, là, on a un projet de société à bâtir. Je vous remercie à l'avance, tout le monde.
Merci, Jean-Pierre Després, au revoir. Jean-Pierre Després, donc, qui est le directeur scientifique du VITAM, de ce centre de recherche de santé durable du CIUS de la capitale nationale. Vous êtes dans Dupont le matin. Pendant que M. Després me parlait, je vous voyais encore continuer de défiler le mot du jour qui est rail, donc au 25226. Si vous voulez vous qualifier pour le magnifique prix qu'on va attribuer demain, vendredi, c'est demain, ça?
Demain, c'est vendredi.
Demain, c'est vendredi.
C'est comme ça marche que lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi.
C'est comme le cahier de live, ça, hein? Ouais.
Fait que demain...
J'ai compris, c'est-à-dire?
Oui, j'ai compris. Demain, vendredi, donc, on va faire le tirage.
On va les éliminer.
Il va y avoir 5 finalistes.
5?
5 ou 10? 10.
10, t'en fais 2 par jour.
Ouais, j'en fais 2 par jour, c'est vrai, je me suis trompé. C'est 10 finalistes.
10 finalistes, puis on les élimine.
On les élimine jusqu'au dernier.
T'aimes ça faire ça?
Ah oui, c'est chiant, moi, tout. J'aime ça les éliminer, là.
You're out!
Fait que on aura 2 finalistes par jour, ce qui fait 8. Et il y aura 2 finalistes.
2 wildcards.
Ouais, 2 wildcards qu'on pige dans le retour.
Ah ce ouais, soir. C'est trop bon.
C'était pas à Bouchard.
C'est ça l'histoire.
Vous textez Je t'aime de 14h à 18h, puis vos chances de vous qualifier vont être grandioses.
Le plus souvent possible.
Oui, c'est
là,
ça.
Là, c'est qu'il faut vraiment que vous textiez beaucoup,
et
beaucoup de fois.
2 choses. Un, vous vous qualifiez.
D'une pierre, 2 coups, Stéphane.
Deuxièmement, vous allez donner de l'amour à Sylvain, qui aujourd'hui.
Tu as senti ça,
Antoine? Ouais, la pandémie, le confinement, il trouve ça. Juste, tu sais, j'ai pas le temps de venir, moi, le flatter.
Pourquoi on parle tout bas, là?
Pour pas qu'il l'entende. Pour pas qu'il le sache.
C'est vraiment une bonne idée.
Chapeau Valeur, vos services. Oui. Tiger s'installe à sa balle.
Et voilà.
Ah, bah, ouais. Non, mais c'est vrai, les gars qui font de la TV, qui parlent de golf, ils sont en studio à Montréal, puis ils parlent tout bas. Puis ils arrivent chez eux, puis ils se font crier après par le fan, c'est sûr, c'est sûr. C'est Carlo Blanchard, là, quand il rentre à la maison, elle doit dire t'étais où encore?
Puis en plus, il commence le trou en disant et la balle est volée. Hey, balle dans le trou!
Ah, non, mais je suis tombé en amour avec le golf, là.
Non?
Ah, oui, moi, je vais devenir un. Premièrement, c'est
peu, là.
Pendant. Non, je te le dis, hey! Imagine, pendant 6 heures par jour, personne ne peut t'appeler, personne ne peut... Fait que t'es pas obligé d'être sur le terrain, mais tu dis, bon, je joue au golf, j'ai un départ à midi et quart. Fait que 6 heures, jusqu'à 6 heures et quart, t'as la paix. la grosse paix. Pas de cellulaire, pas rien. Fait que tu peux faire. C'est sûr que si t'arrives et tu sens d'autres choses que l'air frais, il y a un problème.
C'est ça, là.
OK?
T'es mieux de pas arriver dans ce temps-là. Ouais. T'es mieux d'arrêter d'arriver.
Parce que tu vas te faire poser la question comment ça a été aujourd'hui?
Ouais, ça, c'est toujours moins deux.
T'as bien joué?
Oui.
Ça a bien été.
OK. On s'arrête dans un instant. C'est Isabelle Mathieu, notre chroniqueur judiciaire. Puis vraiment, on va avoir du fun dans quelques minutes. Bougez pas.